Sœur Labouré. Sœur Labouré.
Sœur Labouré s'éveille. Elle tire le rideau et voit là, à côté de son lit, un enfant. Un tout jeune enfant.
Sœur Labouré, venez à la chapelle. La Sainte Vierge vous attend. Il est 11h30. Tout le monde dort bien. Venez.
Sœur Labouré se lève et suit l'enfant. Ils ont traversé le dortoir. Les sœurs dormaient. À présent, ils s'engagent dans l'escalier désert. Il y a comme une clarté autour de cet enfant. Mais ceci l'étonne bien moins que la maison tout éclairée à par ailleurs. Les voici devant la chapelle. L'enfant touche la porte et la porte fermée à clé s'ouvre. L'église, tous cierges et flambeaux allumés, est parée comme pour une messe de minuit. Il traverse la messe. L'enfant s'arrête tout contre le fauteuil de monsieur le directeur. Et Catherine s'agenouille. L'église est vide. Catherine attend. Soudain, une angoisse la saisit. Que les sœurs veilleuses viennent à passer et la trouvent en cet endroit, à cette heure.
Voici la Sainte Vierge.
De Fin-les-Moutiers en Bourgogne, une ferme près de l'église, est la demeure de maître Pierre Labouré, maire du village. C'est un homme rude, travailleur, taciturne, autoritaire et profondément honnête. Un jour... C'était un matin d'octobre en 1815. Ce jour-là, une petite fille de 9 ans n'eut plus de mère, une mère du ciel. 9 ans, c'est un âge raisonnable pour aider une grande sœur et apprendre à tenir la maison. Mais la grande sœur partit pour être religieuse. Elle partit comme devaient partir à leur tour 6 autres enfants, des garçons, qui allaient déjà leur chemin dans la vie. Et Catherine, dite Zoé, la petite Zoé, demeura bientôt seule à pourvoir aux soins domestiques et à veiller sur ses cadets, Tonine et Auguste. Très vite, elle devint l'âme de la ferme, manifestant déjà ce qui, tout au long d'une longue vie, allait être le propre de Sœur Labouré, un profond effacement. Elle fut de ceux dont enfin on aperçoit la place qu'ils occupaient par le vide immense que creuse leur absence. Zoé la travailleuse, Zoé la silencieuse, a pourtant une confidente, Tonine, sa cadette.
Tu sais, Tonine, à partir de demain, j'irai à la messe tous les matins. Mais le père, mais le travail, père ne saura rien. Et le travail ne souffrira pas. J'irai à la messe de 5h30 à l'hospice.
À l'hospice? Ça fait 6 km aller-retour?
Oui. Mais j'aurai communié.
T'es pas une sœur pour communier si souvent.
Et le claquement des sabots de la petite Zoé qui partait à la messe résonnait dans la nuit sonore des décembres de gel.
Voici ta soupe bien chaude.
Merci, Tonine. Mais je mangerai pas.
Tu n'as pas faim?
Si. Mais je mangerai pas. J'ai décidé de jeûner 2 fois la semaine.
On ne jeûne qu'à 20 ans, et pas 2 fois la semaine. Et ton travail, tu vas tomber malade?
Je jeûnerai, et le travail sera fait.
Les beaux jours revenus, quand la brume au petit matin s'étirait au creux des vallons, que les buissons étaient pleins de fleurs et d'oiseaux, elle ne savait plus très bien distinguer entre cette fête des champs et celle qui gonflait son âme, comblée par la présence de Dieu. Et la vie à la ferme demeura ce qu'elle fut, dense, monotone et douce. Les dévotions de Catherine étaient si discrètes que Maître Labouré lui-même paraissait ne point s'en apercevoir. Aussi bien Catherine n'était pas fille à entrer dans de pieuses rêveries, elle remplissait sa tâche quotidienne avec cette plénitude et cette rectitude des âmes simples qui sont sur la terre pour y vivre terrestrement. Une fois pourtant, elle eut un songe. Catherine est à la messe. Et là, un prêtre inconnu d'elle. Son regard est étrange et profond. La messe terminée, comme elle se lève pour partir, le prêtre lui fait signe. Mais elle s'enfuit, effrayée. Sur le chemin du retour, elle s'arrête pour visiter un malade. C'est une humble chaumière. Elle entre. Le prêtre inconnu est là.
Il est bon, ma fille, de visiter les malades. Aujourd'hui, vous me fuyez, mais un jour vous viendrez vers moi. Sachez, mon enfant, que Dieu a des desseins sur vous.
Père, Tonine a 20 ans. Elle peut à présent me remplacer. Je veux être fille de la charité.
Non.
Mais père, Marie-Louise, ma soeur...
Une seule, ça suffit. Et puis, Marie-Louise est instruite. Elle vient même d'être nommée supérieure. Mais toi... Écoute, Zoé. Moi aussi, dans le temps, j'ai cru. Et tu vois, je me suis marié et j'ai eu des enfants. Ce qu'il te faut, c'est connaître un peu la vie. Ton frère Charles, à Paris, pourrait te prendre dans son auberge.
J'obéirai, père, puisque telle est votre volonté.
Une auberge? Non. Une pauvre gargote dans un pauvre quartier. Charles Labouret comprit bientôt que sa sœur, toute résignée qu'elle fût, dépérissait dans cette odeur de friture, de pipe et de vin rouge, et que les plaisanteries parfois la blessaient. Mais comment se dresser contre la décision paternelle et renvoyer Zoé? Or, la femme d'un de leurs frères dirigeait une pension de demoiselles à Châtillon-sur-Seine. Il fut convenu, après avoir emporté de haute lutte l'adhésion de Maître Labouret, que Zoé irait enfin s'instruire dans l'établissement de sa belle-sœur.
Vous avez vu la nouvelle?
C'est une paysanne.
Elle est très vieille, il paraît qu'elle a 24 ans.
Et elle est ignorante comme un bambin.
Pauvre Zoé. Maintenant, elle se voit l'objet de la risée de toutes ces demoiselles élégantes et minaudières qui écrivent en beau style pompeux des lettres parfumées. Qui savent chanter, danser et faire la révérence. Et Zoé se rappelait d'autres chants, ceux des oiseaux dans les haies d'avril, quand elle se rendait à l'aurore à l'hospice de Moutier Saint-Jean pour y entendre la messe. L'hospice. Mais ici aussi à Châtillon, il y a un hospice. Et toute timide et à la fois toute résolue, elle osa un jour heurter à la porte. On la conduit au parloir. On l'a priée d'attendre. Et soudain, là, devant elle, sur ce tableau, le vieux prêtre du songe.
Aujourd'hui, vous me fuyez, mais un jour vous viendrez vers moi. Sachez, mon enfant, que Dieu a des desseins sur vous.
Eh bien, mademoiselle.
Oh, pardon, ma sœur. Qui est-ce?
Mais notre saint fondateur, saint Vincent de Paul.
Ma sœur, je voudrais être fille de la charité.
Et elle devint fille de la charité. La petite Zoé, franchissant le seuil de la maison des sœurs de Saint-Vincent-de-Paul à Châtillon-sur-Seine, voyait s'accomplir le rêve, non, l'ardent désir, qui ne cessa de hanter sa jeunesse, se donner complètement, totalement et irrévocablement à Dieu.
C'est entendu, sœur Victoire. Catherine Labouret a une bonne nature. Elle s'applique, j'en conviens. Mais enfin, ma sœur, elle sait à peine écrire. Sans doute ne sera-t-elle jamais un brillant sujet. Mais je l'ai beaucoup observée durant ces 3 mois. La candeur de son âme et la profondeur de son humilité
m'ont frappé.
Eh bien, soit. Sœur Inan part pour Paris. Elle conduira Mademoiselle Labouret au séminaire de la rue du Bac.
Or, il se trouva que la venue de Zoé à Paris coïncida par une merveilleuse et sans doute très providentielle rencontre avec une fête insigne pour les filles de la charité, le transfert des reliques de Saint-Vincent de Paul.
Quand la révolution de 1789 et son cortège de profanation déferla sur la France, le corps du saint, comme beaucoup de reliques, avait été caché. Et maintenant, en grande pompe, en présence du roi et de tout le peuple, il faisait retour rue de Sèvres parmi les siens.
Et Zoé, qui allait désormais reprendre son nom de Catherine, arriva comme pour recevoir les reliques vénérées du vieillard du songe.
Mais un jour vous viendrez vers moi.
Depuis 3 mois rue du Bac, Catherine est une novice parmi les novices. S'il advient qu'on la remarque, elle le doit à sa gaucherie plus qu'à sa piété. De la piété, oh, certes, elle en a, mais point ostensible.
Elle est effacée comme un brin d'herbe dans un pré.
Une joie profonde brûle au fond de son cœur, mais rien au dehors n'en transparaît sur cette timidité pour l'adoucir, sur ce corps un peu ingrat pour le transfigurer.
Elle est effacée comme un brin d'herbe dans un pré.
Sœur Labouret.
Nous sommes le 19 juillet 1830, jour de la fête de Saint-Vincent de Paul.
Sœur Labouret, venez à la chapelle, la Sainte Vierge vous attend. Il est 11h30, tout le monde dort bien, venez.
Et Marie vint s'asseoir dans le fauteuil de Monsieur le Directeur. Et Marie était comme Marie de Nazareth, et non pas là, ce corps de lumière et de gloire, mais vivante, humaine, si humaine. Et Catherine, à ses pieds, posait les mains sur les genoux de Marie. Et Marie était comme Marie de Nazareth qui parlait familièrement à Jésus, et qui parlait familièrement à Catherine. Et quand Marie disait des choses très grandes, elle les disait tout petitement, comme on parle à un enfant. Elle disait, les temps sont très mauvais, les malheurs viendront qui fondront sur la France, le trône sera renversé, le monde entier sera dans la tristesse. Mais venez au pied de cet autel. Là, les grâces seront répandues sur toutes les personnes qui les demanderont avec confiance et ferveur. Et Marie pleurait comme pleure devant un enfant une femme en silence. Et Catherine pleurait avec Marie qui pleurait sur le monde.
Les temps sont très mauvais.
Comme si Marie, en cette année 1830, venait en pleurant ouvrir le temps des mauvais temps.
Le monde entier sera dans la tristesse.
Comme si Marie, en cette année 1830, venait, elle, l'Arche d'Alliance, en la rue du Bac, pour nous aider à traverser le temps des mauvais temps.
Quatre mois ont passé. La Révolution a chassé le roi. Mais la vie à la maison mère n'a point été troublée par ces tourmentes qui venaient battre et mourir à ses murs. Les sœurs sont à la chapelle. Le jour est à son déclin et l'année liturgique, à son terme. Le silence s'épaissit avec l'ombre qui gagne. C'est l'instant quotidien de la méditation. Catherine est à genoux. Impassible. Quand soudain, il lui semble entendre, là, sur la droite,
un bruit qu'elle a déjà entendu et qu'elle n'oubliera plus jamais. Comme le froissement d'une robe de soie.
C'est Marie, éblouissante, merveilleusement reine et si humainement femme, vêtue comme d'aurore, debout sur une sphère dont la moitié inférieure se dissout dans des ténèbres blanches. Elle tient, elle tend, elle offre de ses deux mains un globe que surmonte une croix. Alors une voix retentit.
Ce globe est bon.
Et encore,
il est aussi et tout particulièrement la France.
Et encore,
il est chacun des hommes.
Marie tend le globe du monde qu'elle a sauvé de l'emprise du prince de ce monde. Et elle l'offre à Jésus, le roi du monde. Et le prince de ce monde, qui a vaincu par Ève et qui sera vaincu par Marie, se tord hideusement sous les pieds de la femme. Le globe disparaît. La femme abaisse les mains. Et de ses mains de la lumière ruisselle. Ce sont des rayons éclatants et multicolores qui jadissent de joyaux et de pierreries qui, soudain, sont venus aux doigts de Marie. Alors, ce fut dans l'âme de Catherine comme un incendie et comme une certitude. Et la pauvre ignorante pénétra à travers Marie dans le mystère de Dieu. Elle pénétra aussi le mystère de la vision. Cette pluie de rayons était une pluie de grâce. Et voici que Marie abaisse son regard vers sa servante et lui sourit. À ce moment, la vision s'entoure d'une forme ovale autour de laquelle s'inscrivent ces mots. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Et la vision devenue tableau, devenue médaille, se retourne. Le revers porte un M surmonté d'une croix avec, en dessous, deux cœurs embrasés. L'un est enserré dans une couronne d'épines, l'autre est ouvert par la blessure d'un glaive. La passion de Jésus, la compassion de Marie. 12 étoiles entourent le symbole.
Et Catherine entendit.
Faites frapper une médaille sur ce modèle. Ceux qui la porteront avec confiance recevront de grandes grâces. Car voici que vient le temps de la séduction.
Il va monter du puits de l'abîme, lui, l'antique serpent. Le serpent du premier jour. Le serpent du dernier jour. Et terrible sont les cordes de l'abîme. Tant de multitudes séduites, ces peuples, ces continents et les tyrans, ces pervers qui les mènent au combat contre la cité de Dieu.
Qui donc se lèvera pour défendre la cité de Dieu ?
Mais elle vient aussi, celle qui fut promise le premier jour et qui triomphera le dernier jour. Et elle pose son talon sur la tête du serpent, comme il est dit de la femme du premier jour. Et elle est couronnée de 12 étoiles, comme il est dit de la femme du dernier jour. Si grande est sa beauté, si grande est sa puissance, et toute vêtue d'aurore.
Le combat, le grand combat. Le combat du dernier jour entre la femme et le serpent, ce sont les hommes qui le mèneront.
Voici des multitudes, des peuples dressés contre la cité de Dieu. Voici Goliath. Où est David ?
Où sont-ils, ces petits, ces humbles, ces effacés qui ne craindront point de se mesurer aux puissants ?
Et tandis que Marie, écrasant le serpent et couronnée d'étoiles, préfigurait tous ces mystères, elle demanda ici, à Paris,
que se lève l'armée des faibles pour affronter la cohorte des violents. Elle demanda des enfants à son image, la pacifique et invincible légion des enfants de Marie.
Leur arme, le rosaire. Leur bouclier, une médaille. Contre des mercenaires cuirassés, le cœur pur d'une jeune fille. Contre des blasphèmes, la candeur des aveux.
Elle vint. Et c'était la première apparition du grand cycle des apparitions, ce mystère de notre temps. Et c'était en 1830, le 27 novembre, dans l'instant où l'Église solennellement annonçait la venue du dernier jour. Elle vint. Et c'était en France. Et c'était à Paris, en la rue du Bac, à l'heure de la traversée des eaux douloureuses, afin de conduire l'humanité sur le rivage des nouveaux temps. Là où se tenait, au bord de la mer, dans la clarté vague d'avant l'aube, le Christ ressuscité.
Quiconque, avec confiance, portera la médaille, recevra de grandes grâces.
Labouré, vous ne travaillez pas? Vous avez l'air en extase.
Oh. Oh, pardon, ma
sœur. Ce que l'âme de Catherine est lourde, non point du secret de l'apparition, mais du souci de sa mission, faire frapper une médaille.
Parlez à votre directeur et à lui seul, avec confiance et simplicité, a conseillé la Sainte Vierge.
Ma fille, ne me parlez plus de ce que vous appelez vos visions. Plutôt que de voir la Sainte Vierge, commencez par imiter ses vertus. Et tout d'abord, en ne vous singularisant point.
Je vous obéirai, mon père. À moins que la Sainte Vierge ne m'ordonne à nouveau de vous parler.
Sous son apparente rudesse, M. Aladel, aumônier de la maison de la rue du Bac, était plus ému qu'il ne le supposait. Il observa Catherine, et il vit que de toutes les novices, elle semblait assurément la moins propre à se laisser entraîner aux illusions mystiques. La plus effacée, certes, mais aussi la plus humble. Et cette humilité vainquit enfin le confesseur.
Le séminaire terminé, Sœur Labouré prit l'habit des filles de la charité le 30 janvier 1831. Quelques jours plus tard, envoyée à l'hospice d'Enghien au faubourg Saint-Antoine, elle fut affectée à la cuisine des vieillards. À l'hospice, Catherine fut tout de suite une vraie fille de la charité, telle que jadis l'avait une fois définie le saint fondateur de l'ordre, le vieux prêtre du songe.
Elle doit se donner à Dieu pour aimer notre Seigneur et le servir en la personne des pauvres.
Sous les grandes ailes blanches de la cornette, Catherine sut demeurer la robuste paysanne de fin Lénoutier, les deux pieds sur la terre, les deux mains à l'ouvrage, et le cœur plein d'un amour qui ne passe pas en belles phrases sur la langue, mais qui s'accomplit dans le service, inlassablement, de l'aube du matin jusqu'à la veillée du soir.
L'histoire de Catherine. Mais Catherine n'a pas d'histoire. La Vierge Marie a-t-elle une histoire dans les évangiles?
Elle conservait toutes ces choses en son cœur.
Et la confidente de Marie conservait elle aussi toutes ces choses dans le silence de son cœur.
L'histoire de Catherine, mais Catherine n'a pas d'histoire. L'obéissance ne fait point de bruit. L'humilité n'a pas d'éclat, car le bruit de la gloire sur la terre retombe sur la terre.
mais le silence de l'âme sur la terre retentit infiniment dans les cieux.
Et la petite servante des pauvres, dans la maison des vieillards au temps des mauvais temps, se donnait tout aux soins ménagers, comme jadis dans le temps, à l'heure du renversement des temps, la servante du Seigneur vaguait aux besognes quotidiennes dans la maison de l'enfant de Nazareth.
Elle n'eut pas d'histoire, celle qui vécut 70 ans sur la terre et 46 ans avec le secret enfoui dans le silence de son cœur, quand la médaille, elle, connaissait une prodigieuse histoire.
Le père Aladelle, à l'insu de la voyante, avait entrepris, avec l'appui de Monseigneur de Kellen, archevêque de Paris, de réaliser le désir de Marie. En mai 1832, moins de 2 ans après les apparitions, la médaille était frappée, et tout de suite, la médaille se répandit. La médaille conquit le monde. Aussitôt, guérison et conversion lui firent un sillage de gloire. Et l'on savait que Marie elle-même l'avait donnée. Mais on ne savait point qui l'avait reçue.
Enfin, monsieur Aladelle, votre pénitente consentait à me voir. Elle ne saurait refuser de se rendre au désir de l'archevêque de Paris.
Monseigneur, elle refuse.
Lui avez-vous dit que je me résigne à l'entendre derrière un voile?
Je le lui ai dit, monseigneur. Elle veut et elle doit rester inconnue.
La renommée de l'anonyme brillait déjà jusqu'aux extrémités de la terre. Et là, autour d'elle, tout contre elle, il y avait la vie banale du soir et du matin. Et la grisaille des gestes familiers, la cuisine, la lingerie, un vieillard qu'il faut soigner, un autre qu'il faut consoler, et des pigeons qui mangent les petits pois du semis dans le potager de l'enclos.
Vous savez, sœur Catherine, la médaille, celle que tout le monde à présent appelle la médaille miraculeuse, eh bien, elle vient d'accomplir un nouveau miracle.
La miséricorde de Dieu est grande.
Ah, mais pas un miracle comme les autres. La médaille est cause que la Sainte Vierge est encore apparue. Et vous savez où, ma sœur? À Rome. Et à qui? À un juif incrédule.
C'était en 1842. En ces jours-là, un jeune banquier de Strasbourg, Alphonse Ratisbonne, qui promenait son désœuvrement au soleil de l'Italie, se présenta pour une visite de courtoisie chez un ancien condisciple de collège, le comte de Bussière.
Ainsi, vous avez le dessein de quitter Rome si tôt sans vous arrêter à toutes ces merveilles?
Le malaise que j'éprouve ici est trop grand pour que je consente à y demeurer plus longtemps. Je suis juif, vous le savez. Le spectacle de votre église glorieuse et insolente me déchire et m'humilie.
Bussière était catholique, et catholique converti du protestantisme. Son zèle de néophyte l'emportait jusqu'à lui faire oublier les convenances d'une conversation de bon ton entre gens du monde.
Ainsi donc, monsieur, vous ne voyez dans notre sainte religion que pompes et superstitions.
Ces ors, ces tableaux, ces cierges, ces médailles.
Ces médailles. Tenez, en voici une justement. La médaille miraculeuse. Consentiriez-vous à la porter?
Mais monsieur, pareille démarche est insensée.
Vous êtes esprit fort, m'avez-vous dit?
Assurément.
Alors, que peut-vous faire d'avoir sur vous ce petit morceau de métal?
Si cela peut vous faire plaisir.
Quelques jours plus tard, Ratisbonne, sur le point de quitter Rome, rencontre le comte de Bussière qui se dirigeait vers l'église Saint-André del Frate. Il l'accompagne et pénètre avec lui dans l'édifice, où il demeure seul pendant que monsieur de Bussière se rend à la sacristie.
Et voici, tout à coup, que les marbres, les colonnes, la voûte, tout a disparu, comme englouti dans un abîme de lumière, tout, sauf une chapelle, foyer de cet embrasement de gloire. Et là, au centre du rayonnement, elle, Marie, debout sur l'autel, plus éclatante que tout cet éclat.
Monsieur Ratisbonne.
sur Ratisbonne.
Mon Dieu. Mon Dieu.
Mais enfin, mon ami, que vous est-il arrivé?
Je l'ai vu. La Vierge de la Médaille. Je l'ai vu. Elle ne m'a rien dit. Mais j'ai tout compris. D'un seul coup. Pour toujours. Pour toujours.
Il avait tout compris, en effet, pour toujours.
Maintenant, Ratisbonne s'avance, vêtue de la longue robe des catéchumènes. Et le cardinal Patrizi lui ouvre les portes de l'église, qui sont les portes du royaume.
Que demandez-vous à l'église de Dieu?
La foi.
Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né et qui est mort pour nous?
J'y crois.
Alphonse, Tobie, Marie, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Qui la Sainte Vierge est apparue. À Rome. La Sainte Vierge voulait sans doute que cela se sût, à Paris que cela ne se sût point.
Que l'on connût Catherine, cela aurait-il ajouté à la gloire de Dieu sur la terre. Mais que se répande le renom du miracle de Rome, et voilà vraiment plus qu'une affaire personnelle, mais un témoignage, une promesse et un signe.
Une promesse et un signe. Sauve. Sauve. Pourquoi me persécutes-tu?
Et Saul, le Juif, sur la route de Damas, renversé par l'éclat de Dieu, dans un instant et pour toujours comprit l'indicible et devint Paul, le serviteur du Christ. Et Ratisbonne, le Juif, sur les marches de l'autel, renversé par l'éclat de Marie, dans un instant et pour toujours, comprit l'indicible, et se fit le serviteur de Jésus.
Une promesse et un signe?
Oui, un signe, oui. Une promesse pour le peuple juif tout entier, qui sera un jour que Dieu connaît. Renversé par le souffle de l'Esprit Saint, et qui, dans un instant et pour toujours, comprendra le livre scellé et adorera celui qui l'a crucifié.
Je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'aveuglement jusqu'à ce que la masse des peuples soit entrée dans l'Église. Alors, tout Israël sera sauvé. Qui parle?
Mais Paul, le Juif converti, l'apôtre des gentils. 19 siècles plus tard, au renversé de Jésus à Damas, répondait à Rome le renversé de Marc.
Le Dieu des miséricordes, secoue Israël. Il le pourchasse de ses lumières et de sa grâce. Qui parle?
Mais Ratisbonne, le Juif converti, qui voulut se faisant prêtre, être chrétien totalement. Ne serait-ce point que les temps annoncés par Paul soient proches désormais. Oui, le travail est fait. Israël est retourné en Palestine. Il y est retourné pour parfaire sa purification et parce qu'il fallait bien que s'accomplissent enfin toutes les prophéties de tous les prophètes.
Dieu m'est témoin que j'offre ma vie pour le salut d'Israël.
Et voilà sans doute pourquoi Marie voulut à Rome que le mystère de Ratisbonne fût public, et à Paris que celui de Catherine demeura scellé.
Oui, ma sœur, un juif incrédule et qui croit à présent, comme vous et moi, mieux même que vous et moi, car lui au moins, il a contenté la Sainte Vierge, alors que ni vous, ni moi, ne l'avons point vu.
Heureux, a dit notre Seigneur, ceux qui croiront et qui ne verront pas.
Pensez-vous, sœur Catherine, que si notre sœur, à qui la Sainte Vierge a parlé, était encore de ce monde, elle pourrait vivre comme vous et moi?
Ma foi, oui, ma sœur, je le pense.
Eh bien, moi, pas. En tout cas, on l'a sûrement mise à l'écart de tous nos petits tracas quotidiens.
Sœur Catherine! Sœur Catherine!
Allons, bon, voilà encore la dispute chez nos vieux. J'y cours.
Veillez donc, sœur Victoire, que la sauce n'attache pas en mon absence.
Et la petite sœur, perdue, confondue parmi les autres sœurs comme un brin d'herbe dans un pré, vivra jour après jour, les ans après les ans, une vie sans histoire, quand l'univers catholique est tout plein de sa merveilleuse histoire. Oui, à tout bien considérer, c'était la première fois, après tant de siècles de chrétienté, que Marie apparaissait de la sorte. Non plus la mère de Dieu qui tient et qui offre son fils, mais seule, toute belle et jeune, douce comme la lune, resplendissante comme le soleil et vêtue d'aurore comme l'épouse du Cantique. Oui, en vérité, l'épouse du Cantique, la belle, l'immaculée, la colombe qui se tient dans la fente du rocher, dans le creux du rocher de Lourdes.
Ah, ma sœur. Il est beau que la Sainte Vierge ait confirmé à Lourdes ce qu'elle a dit ici à Paris à l'une d'entre nous.
Quoi donc, sœur Catherine?
Je suis l'Immaculée Conception. Rue du Bac, elle avait demandé qu'on l'invoque ainsi. Ô Marie conçue sans péché.
Priez pour nous qui avons recours à vous.
Voyez-vous, ma sœur, toutes les apparitions de Marie depuis 28 ans, à Paris, à la Salette, à Lourdes, ailleurs plus tard peut-être, sont liés par des fils mystérieux que les hommes, n'en doutez pas, connaîtront un jour. Marie, dans ses apparitions, prépare de grandes choses qui viendront un jour sur la terre.
Hélas, sœur Catherine, vous prophétisez ma parole.
Suis-je bête, Seigneur? Et dire qu'il s'en est fallu de peu que je laisse passer l'heure de soigner les volailles. Écoutez-les qui piaillent. Voilà la sœur du poulailler. Avec ses rhumatismes. Elle va sûrement s'arrêter devant la statue. N'ayant pas l'air de l'observer. Comme elle est belle quand elle prie.
Traversant la grande allée de l'hospice, Catherine Labouré ne manquait jamais de saluer d'un ave celle qui lui avait donné le plus doux moment de sa vie. Ce souvenir demain sera son unique soutien, car son confident, le père Aladel, va bientôt être rappelé à Dieu.
Lors de son dernier passage, le père Marie, vous savez, monsieur Ratisbonne, a encore sollicité la faveur de vous connaître, sœur Catherine. Ne céderez-vous jamais?
La Sainte Vierge veut que je demeure inconnue.
Même pour sa sainteté?
Combien même notre Saint-Père me promettrait l'autel de la Vierge au globe que j'attends depuis 35 ans, je ne le pourrais pas.
Mon Dieu, daignez me pardonner de n'avoir su, avant de mourir, réaliser le désir de votre sainte mère. Ma chère sœur, je crois pouvoir vous rassurer. Sœur Dufesse fera ce que je n'ai pas pu faire.
Ainsi soit-il.
Or, sœur Dufesse, la supérieure, était d'une froideur et d'une sévérité inexplicables, bien peu propres à faciliter chez la vieille sœur timide de si hautes révélations. Et Catherine se taisait.
Les années tombaient sur les années dans la douceur grise de l'hospice du quartier Saint-Antoine. et la vieille petite sœur, d'un geste lent et méthodique, enlève l'écume sur le pot-au-feu qui boue et qui chante. Et tous les alléluia de tout l'univers glorifiant Notre-Dame tombent dans ce tout petit cœur de ménagère que l'humilité a rendu pareil à celui de Marie de Nazareth, profond comme la mer et comme l'amour de Dieu. Catherine écoutait. Catherine se taisait.
Or, un jour...
Vous avez demandé à me voir sur Catherine ?
Oui, ma sœur. Mes jours sont comptés. Et la Sainte Vierge, dans mon oraison, m'a autorisé à vous parler.
La Sainte Vierge ? Mais alors, les apparitions, la médaille, c'était vous?
Oui, ma sœur.
Debout, face à face, Catherine parlera à sœur Dufesse, libérant en 2 heures 46 ans de silence.
Il faut, ma sœur, élever un autel là où se tenait l'apparition. Et dresser la statue de la Vierge au globe.
Mais il y a déjà la médaille.
La Sainte Vierge a demandé aussi une statue. Faites vite, ma sœur. Faites vite. Cette statue a été le martyr de ma vie. Je ne veux pas retourner vers Marie sans lui avoir obéi jusqu'au bout.
Sœur Dufesse fit vite, très vite. La Vierge puissante fut présentée à Catherine.
Elle était tellement plus belle.
Oh oui, beaucoup plus belle. Mais comment sculpter l'aurore ?
Et Catherine sourit, en pensant qu'elle va tantôt la revoir, dans toute sa lumière, dans toute sa beauté. Sa mission terminée, elle peut s'en aller en paix. Dehors, dans ce soir de décembre froid, le pas des chevaux retentit sur le pavé sonore. Et la petite sœur sans histoire sur la terre, et qui donnait à manger aux poules, est reçue au paradis par tous les anges, et les saints, et les saintes, et les martyrs, et les bienheureuses, voire cette ignorante, par le groupe austère des docteurs.
La forêt s'était murée dans sa solitude, ses hôtes terrés dans leur infinie misère.
À la lisière, les troncs rugueux levaient vers un ciel de cendres les moignons de leurs branches décharnées, et les sapins ployés sous un faîte de neige glacée.
C'était au nord d'Assise, sur la rampe escarpée des Apennins, à 2 pas des gorges de Montecalvo.
La forêt veillait sous son apparente mort. Les bêtes souffraient.
La forêt, drapée dans la dignité de sa souffrance, était close aux humains.
Je ne trouve plus mon terrier.
Heureusement, il me reste encore quelques souris.
Je n'aurai bientôt plus de noisettes.
J'ai faim, je ne veux pas mourir.
J'ai faim.
C'était une lamentation générale, qui ne tarissait qu'à la nuit tombante lorsque les bêtes épuisées chercher dans un trouble sommeil un peu de réconfort.
La forêt s'endormait quand s'allumaient à ses pieds les lumières de Gubbio.
Gubbio, endormi dans la tiédeur de ses foyers.
Gubbio, indifférente à la souffrance proche.
Alors, des entrailles de la terre sauvage, jaillit l'ultime cri du désespoir.
Le pauvre entre les pauvres, le famélique entre les faméliques.
Il errait sur la terre glacée entre les buissons agressifs. Il avait faim. Il avait toujours eu faim. Une faim qui lui mordait le ventre, qui le tenaillait. Il avait peur de cette bête terrible qui le rongeait, qui lui collait les os à la peau.
Il n'avait rien que sa misère. Alors il hurlait à la lune. On entendait de Gubbio l'atroce mélopée du maudit. Cris de haine et de douleur. La bête traquée s'abandonnait à la désespérance de la forêt nue.
Un groupe d'hommes et de femmes se trouve massé sur la place de Gubbio.
Alors, le loup détruit vos bergeries, mange vos chiens, hurle toute la nuit, et vous restez là à vous lamenter en attendant qu'ils viennent dévorer vos femmes et vos enfants.
Nous n'en sommes pas encore là.
Espérons-le. Mais vous avez peur, avouez-le. Peur d'un loup à moitié mort de faim.
C'est bien là ce qui nous inquiète.
Il a dévoré les brebis de Gudici, les chiens de Marco. Cela ne vous suffit pas? Attendez-vous qu'il entre dans la ville?
Monsieur Aldo, Luigi est parti avec un gourdin et un grand couteau. Il disait, le loup, je l'aurai, je rapporterai à l'aube ses oreilles et sa queue. Il y a 3 jours de cela, il n'est pas revenu. Je suis sa mère, messire Aldo. Mon mari non plus n'est pas venu. Ni mon fils, ni mon frère. Un bûcheron a pu se sauver, mais il a vu sur la neige des taches de sang.
Et le loup? Il digère, imbécile. L'heure est venue, mes amis. La preuve est faite. Un homme seul est un homme perdu. Unissons-nous et que chacun prépare sa défense. Bâton, fléau, arbalète, peu importe. Tous ici, demain à l'aube, bourgeois et paysans, riches et manants. Nous fouillerons les taillis, les cavernes. Et demain, s'il plaît à Dieu, Gubbio sera délivré.
Protégez-nous.
Allumons des feux tout autour de la ville. La bête ne passera pas.
Gubbio fut bientôt ceinturé de brasier.
Le loup vit le rempart de feu et recula en poussant un immense cri de détresse qui fit frémir la forêt tout entière.
Bien malin s'il nous échappe, nous sommes armés jusqu'aux dents. On pourrait nous croire partant en guerre contre les Turcs.
Ils avaient des faux, des sabres rouillés et des massues.
Mais sire, il allait prendre par le chemin de droite, celui qui mène au sentier de Monte Calvo.
Ah ça! Depuis quand les femmes se mêlent-elles d'aller chasser les loups? Arrière, retourne dans ta maison faire bouillir ta soupe. Allons!
Mais je veux retrouver.
On t'en rapportera ce qu'il en reste. En route, mes amis. L'aube commence à blanchir la cime de Monte Calvo.
nous séparer. Sommes-nous assez nombreux?
Tu tremblerais devant ton ombre.
Tiens, un homme là-haut sur le sentier. Un de plus ne serait pas de trop.
Je ne suis pas sûr que ce soit un homme. Il a une robe brune, pas de chausses. Sa tête est couverte d'un cabuchon. Mais il a bien piètre figure pour chasser le loup. L'homme.
En quoi puis-je vous rendre service?
En prenant cette faux si tu peux la porter et en te joignant à nous.
Il n'y a rien à faucher dans la forêt et vous abîmez la neige.
Il se baissa, cueillit un blanc flocon et le mit dans sa paume froide. Il l'embrassa et les plus proches l'entendirent murmurer.
Pardon pour eux.
Il n'est pas question de neige, mais de loup. Si tu habitais Gobio, tu saurais qu'un loup énorme dévaste le pays, tue les brebis, les chiens et même les hommes. Nos femmes et nos enfants ne dorment plus. Il a osé venir jusqu'à nos portes.
Il avait sans doute très faim.
D'où es-tu pour tenir des propos pareils? Le soleil a dû te chauffer la cervelle cet été.
Le loup est mon frère, comme toute créature de Dieu.
Alors, nous sommes tes frères, va du pied.
Es-tu vraiment si pauvre pour aller pieds nus? Je n'ai pas froid.
Tu dois être affamé comme le loup. Joins-toi à nous et ce soir, tu auras gîte et couvert dans ma maison. Allons, prends cette faux, je te l'ordonne.
Dieu seul ordonne, messire. Je n'en ai pas besoin. Dites-moi où je puis trouver mon frère le loup. Je voudrais causer un peu avec lui. J'irai tout seul, car vous lui feriez peur avec vos outils effrayants.
Causer avec le loup? Mais tu es fou! Il te tuera avant que tu n'aies ouvert la bouche.
Bien maigre pitance! Le loup n'engraissera pas, il est plus maigre que lui. Après tout, s'il y tient...
Mais Sir Aldo!
Encore toi! Emparez-vous de ce fou et menez-le sous bonne garde.
Ne le touchez pas! C'est le saint mendiant d'Assise. Dans les yeux de François, il y avait tant de clarté qu'on y voyait quelque chose du ciel. La troupe resta interdite. Quelques hommes s'agenouillèrent auprès de Rita. Personne ne songeait plus à rire.
François gravit la pente raide. Ses pas marquaient à peine le sol, si léger était son corps. Il ne voulait pas souiller de ses pieds nus sa sœur la neige, qui dansait joyeuse autour de lui.
Suivons-le de loin en silence. Et toi, Pietro, cours jusqu'à la ville, va chercher du renfort. Nous ne serons jamais trop nombreux pour l'arracher à la gueule du loup.
François se retourna à l'orée de la clairière. Il vit beaucoup de monde sur la route de Gobion. À croire que la ville entière montait à l'assaut de la forêt. Mais ils étaient loin, très loin.
Il devina derrière lui la présence de la bête famélique et lui fit face, tout seul, sans armes, les mains tendues.
Les hommes s'étaient cachés dans les forêts en priant Dieu de les épargner. Un hurlement retentit qui les glaça de peur. Le loup était prêt à bondir.
François continuait d'avancer, De sa main diaphane, il traça sur la bête déchaînée un grand signe de croix. Inconsciemment, les gens cachés dans les fourrés se signèrent. Ils attendaient soit un grand miracle, soit un sacrifice.
Viens ici, frère Lou. Je te demande de la part du Christ de ne faire aucun mal, ni à moi, ni à personne.
Le regard de François, irradiant de clarté, pénétra dans les prunelles infernales du loup.
Il y eut un moment de stupeur. Le ciel et l'enfer en présence. La bête vaincue s'allongea et posa son museau sur les pieds nus du petit frère.
Tu avais faim, frère Lou. Tu avais faim.
Le fauve releva la tête. À ce mot, il sentit l'atroce brûlure dans ses flancs étiques.
Tu as fait beaucoup de ravages dans ce pays. Tu as détruit des créatures de Dieu. Et tu as même tué des hommes. Tu es digne du gibet.
La lueur rouge courut à nouveau, féroce, dansant comme un feu follet dans les yeux du loup.
Je veux, frère loup, la paix entre toi et eux.
Eux, c'étaient les hommes, cachés honteusement derrière les taillis, prêts à bondir sur sa maigre carcasse.
Tu ne les offenseras plus. Et ni les hommes, ni les chiens ne te persécuteront maintenant. Si tu promets d'observer cette paix, je te ferai nourrir par les gens de ce pays tant que tu vivras. Et tu ne souffriras plus de la faim. Car je sais bien que c'est à cause de cette faim que tu as fait tant de mal.
François étendit la main et caressa l'échine noueuse, le poil raide de la bête accroupie à ses pieds.
Le feu ardent des prunelles s'éteignit. Le regard du loup devint confiant comme celui d'un petit enfant.
L'enfer était retourné à l'enfer. Alors, tous virent le loup mettre sa patte droite dans la main de François. Puis, l'un suivant l'autre, s'en allait à la rencontre des hommes.
Chemin blanc de neige, le saint et la bête cheminaient, suivis des hommes médusés. Les buissons s'écartaient, laissant entrevoir des visages stupéfaits et les têtes de certains animaux plus intrigués encore.
Mais c'est le loup, il n'est pas attaché, il suit un homme.
Dieu soit loué, nous voici délivrés du mal.
Ne criez pas trop vite. Comme on connaît les saints, on les honore. Et Messire Loup n'est pas très recommandable.
Regardez, regardez. Le ciel est plein d'oiseaux au-dessus de leur tête. Des alouettes, des mésanges.
Et ils chantent.
Par la vallée descendaient François et le loup vers la ville de Goubio.
La nouvelle se répandit par toute la cité. Et quand François déboucha sur la place, toute la population y était déjà rassemblée.
Tu es fou, il ne l'aura pas suivi. Et bien heureux qu'il ne l'ait pas dévoré.
Puisque je l'ai vu.
Le loup avait l'air de pleurer. Il léchait les pieds du petit frère, ses pauvres pieds nus. Frère François lui parlait à voix basse et la bête semblait comprendre.
Comprendre quoi? Il a tué, il doit être tué, exécuté sans merci, comme un brigand.
Mais s'il se repent?
La belle affaire. Voler, tuer, mes amis, puis venez faire patte nôtre. On vous pardonnera et vous n'aurez plus qu'à recommencer. Voilà où nous en sommes avec vos histoires de fous. Vive les maraudeurs, les détrousseurs et les bandits de grand chemin. Place à eux, la route leur appartient, garez-vous dans les fossés si vous le pouvez, et s'ils vous en laissent le temps.
Tais-toi, mécréant! Tu as mâché l'herbe de Satan et elle te sort par la bouche.
Le loup est capturé, mort au loup. Les voilà qui arrivent. Le loup semble apaiser l'agneau.
François, le loup sur ses talons, traversa la foule recueillie. Il monta sur une éminence, toujours suivi de la bête.
Donne-moi ta foi, frère loup, au nom du Christ, comme tu l'as fait dans la forêt. Et vous, braves gens, promettez-vous de lui donner chaque jour la nourriture qui lui est nécessaire ?
Oui, nous promettons !
Alors, pour la deuxième fois, le loup mit sa patte droite dans la main de Saint François.
Il sembla à tous que la neige des arbres devenait fleur tant l'air attiédi était parfumé. Et du cœur de la foule à genoux jaillit le plus beau cantique de joie et d'espérance.